Bonjour mes chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, nous reprenons notre série d'émissions La Bonne Nouvelle aux musulmans. Nous commençons par l'étude du Décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez des observations ou objections à formuler, des questions à poser, n'hésitez pas. Écrivez-nous à radio-silence, @wanadoo.fr. Les 10 commandements. Il y a beaucoup de gens qui se creusent la tête pour savoir ce qu'il faut faire pour réussir leur vie. Dès le plus jeune âge, les enfants sont orientés par leurs parents et plus tard par leurs enseignants pour pouvoir s'autonomiser, s'épanouir, voler de leurs propres ailes, pour gagner leur vie et finalement pour faire une belle carrière. Ainsi en est-il pour la vie de ce monde. Et les fortes têtes savent ce qu'il faut faire pour y arriver. Qu'en est-il de la vie spirituelle, voire de la vie surnaturelle? Nous lisons dans l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 21, qu'un jeune homme était venu trouver Jésus pour lui demander justement ce qu'il fallait faire pour gagner la vie éternelle. La réponse de Jésus était claire. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Or, Jésus n'est pas seulement un modèle des temps révolus. Il vit et attend qu'à notre tour nous répondions à son amour. Et comment pouvons-nous répondre à son amour? Tout simplement en observant les commandements comme nous lisons chez saint Jean. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jésus lui-même interprète la loi à la lumière du double et unique commandement de la charité, qui est la plénitude de la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le plus grand et le premier des commandements. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements contiennent toute la loi et les prophètes. Il faut savoir que dans les livres de l'Ancien Testament, on trouve de nombreux commandements et préceptes. Jésus réunit 2 phrases de l'Ancien Testament en un seul commandement. C'est le fondement de tous les autres et constitue un programme pour la vie. À savoir, l'amour qui englobe tout, Dieu, le prochain et soi-même. Celui qui aime n'a plus peur du Dieu tout-puissant et vindicatif. Il peut lui faire confiance et lui rester fidèle même lorsqu'il est durement éprouvé comme Job et qu'il ne comprend plus les plans de Dieu. Il peut compter sur son amour même s'il s'est égaré et s'il s'est livré à la débauche comme le fils prodigue. Un homme qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, gagnera la vie éternelle. Car Dieu nous a aimés le premier. Lorsque nous péchons, tu ne nous laisses pas tomber. Lorsque nous succombons, tu nous redresses. Lorsque nous nous convertissons, tu viens au-devant de nous. Lorsque nous doutons, tu nous adresses ta parole. Lorsque la faute nous écrase, tu nous prends dans tes bras. Lorsque nous croyons, tu nous épargnes le jugement. Lorsque nous mourons, tu nous appelles à la vie. Voilà pourquoi nous pouvons nous aimer les uns et les autres. Les anciens d'Israël font leurs premières expériences de vie communautaire et de vie avec Dieu sur le chemin qui les conduit de l'esclavage en Égypte à la liberté dans la terre promise. Ils savent qu'ils n'auraient jamais réussi d'eux-mêmes à se libérer, mais qu'ils doivent tout à Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est Dieu qui les précède, qui choisit le trajet, qui les protège et qui pourvoit à leurs besoins. En faisant l'expérience de l'aide de Dieu pendant leur pérégrination à travers la péninsule du Sinaï, la foi des Israélites augmente. Ils connaissent celui qui leur propose l'alliance et qui leur promet un avenir. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai emporté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Mais l'alliance que Dieu conclut sur le Sinaï avec son peuple élu n'est pas un pacte sans engagement. Au contraire, Dieu fait connaître sa volonté et le peuple est tenu d'exprimer son appartenance à Dieu en répondant avec gratitude à son initiative d'amour. Les Israélites n'ont désormais plus qu'un seul choix, celui de choisir la vie et le bonheur que Dieu leur propose, autrement ils périront. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements de Yahvé ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Yahvé ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. Mont Sinaï à Moïse, ses commandements nommés décalogue, ce qui signifie 10 paroles. C'est toute la loi donnée par Dieu à son peuple. Les premiers 3 commandements se réfèrent à l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Les 7 autres commandements rappellent l'amour que nous devons à notre prochain. Ce ne sont pas des prescriptions qui entravent notre liberté, comme le pensent beaucoup de contemporains, mais au contraire, ils constituent plutôt une sorte de garde-fou qui garantissent pour toute personne le chemin d'une vie libérée de l'esclavage du péché. Chaque homme sait au fond ce qu'il doit faire et ne pas faire. Il lui suffit d'écouter la voix de son propre cœur, voix que nous appelons la conscience. La conscience rend chaque homme capable de distinguer entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Aussi, chacun est-il tenu d'écouter la voix de sa conscience et de faire ce qu'elle lui dit. Les 10 commandements étaient écrits sur 2 tables de pierre conservées dans l'Arche d'Alliance. Le peuple d'Israël a compris que les commandements de Dieu sont fondés sur l'amour, car Dieu veut que tous les hommes lui deviennent semblables, lui qui est amour. Regardons donc de près les 10 commandements un par un. D'abord les commandements qui se réfèrent à Dieu. Premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Exode chapitre 20, verset 2. Cela signifie que rien ni personne ne sera aussi important que Dieu. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu. Il faut attendre tout de lui. Il faut tout espérer de lui. Par contre, il faut repousser toute indifférence, toute ingratitude, toute tiédeur. Cela implique aussi que nous devons repousser tout ce qui est contraire à notre foi. Par exemple, le doute volontaire, l'incrédulité, l'hérésie, l'apostasie, le schisme. Nous devons adorer le Seigneur. Or, que signifie « Adore le Seigneur ton Dieu » à lui seul tu rendras un culte. Cela veut dire qu'il faut adorer Dieu comme le Seigneur de tout ce qui existe. Il faut lui rendre le culte qui lui est dû de façon individuelle et communautaire. Il faut lui offrir nos louanges, nos actions de grâce, nos supplications. Il faut lui offrir des sacrifices, avant tout le sacrifice spirituel de notre vie, uni au sacrifice parfait du Christ. Il faut maintenir les promesses et les vœux faits à Dieu. Cela implique aussi que tout homme a le droit et le devoir moral de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Quand il a reconnu, il est obligé de l'embrasser et de lui rester fidèle, en rendant à Dieu un culte authentique, tel que Jésus l'avait prédit lui-même. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Cette phrase de Jésus est un clair indice que l'adoration de Dieu est toujours une adoration de la Sainte Trinité. Attention, la dignité de la personne humaine exige qu'en matière de religion, personne ne soit forcé d'embrasser une religion ou d'y persévérer, que personne ne soit obligé d'agir contre sa conscience. La dignité humaine exige que chacun soit libre d'agir selon son entendement. Forcer quelqu'un d'embrasser une religion ou de persévérer dans une religion à laquelle on ne peut plus adhérer à bon escient est un grave péché contre le libre arbitre et la dignité humaine, une grave enfreinte aux droits de l'homme qui se base d'ailleurs tous sur les 10 commandements. Regardez l'article 18 des droits de l'homme qui définit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cela comprend aussi la liberté de changer de religion ou de conviction. Pourquoi ? Puisque Dieu même ne nous force pas à l'adorer, mais nous laisse la liberté de l'aimer, puisque l'amour exige toujours un libre consentement et ne viole jamais le libre arbitre, nous devons respecter la décision de chacun de changer de religion si bon lui semble. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut respecter l'erreur en matière de religion. Au contraire, mais il faut respecter la libre réponse de chacun à l'appel de Dieu qui, si l'homme est vraiment à la recherche de la vérité, l'attirera à lui par son Saint-Esprit d'amour et de vérité. D'ailleurs, les erreurs en matière de religion ne se combattent pas par l'oppression, ni par la violence, ni par la guerre, ni par des dialogues interminables, mais seulement par le recours à la prière, spécialement à la prière du chapelet, telle que la Sainte Vierge ne cesse de nous le demander au cours de ses nombreuses apparitions, surtout à Fatima en 1917, car c'est à elle que sera accordée la victoire sur toutes les hérésies. Comme elle a dit elle-même, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Qu'est-ce que Dieu interdit quand il commande « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » Ce commandement proscrit le polythéisme et l'idolâtrie, qui divinisent une créature, le pouvoir, l'argent, la volupté, même le démon. La superstition, qui s'exprime sous diverses formes de divinisation, de magie, de sorcellerie et de spiritisme, c'est une déviance du culte dû au vrai Dieu. Puis l'irréligion, qui s'exprime surtout par le sacrilège, qui profane des personnes ou des choses sacrées, surtout l'Eucharistie, qui s'exprime aussi par la simonie, par laquelle on entend acheter ou vendre des réalités spirituelles. Puis l'athéisme, qui rejette l'existence de Dieu parce qu'au fond il n'accepte pas la dépendance de Dieu. Il se base sur une fausse conception de l'autonomie humaine. Puis l'agnosticisme, qui prétend ne rien savoir de Dieu, qui comprend aussi l'indifférentisme et l'athéisme pragmatique. Est-ce que le commandement de Dieu « Tu ne te feras aucune image sculptée » interdit le culte des images? Dans l'Ancien Testament, ce commandement interdisait de représenter Dieu absolument transcendant. Mais à partir de l'incarnation du Fils de Dieu, le culte chrétien des images saintes est justifié, comme l'affirme d'ailleurs le deuxième concile de Nicée en 787, parce qu'il se fonde sur le mystère de l'incarnation, le mystère du Fils de Dieu fait homme, en qui le Dieu transcendant se rend visible. De plus, le Christ, notre Sauveur, nous a laissé lui-même son image sur le saint linceul de Turin. Pour ce qui est du culte des images, il ne s'agit donc pas d'une adoration de l'image, mais d'une vénération de celui qui est représenté en elle. Le Christ, la Sainte Vierge, les anges, les saints. Les icônes de l'Église orthodoxe se réfèrent d'ailleurs toutes à une image non faite de main d'homme, qui n'est rien d'autre que l'image du saint linceul de Turin. Le deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu à tort. Cela signifie respecter le nom de Dieu, le confesser, lui rendre témoignage. Nous respectons le saint nom de Dieu en l'invoquant, en le bénissant, en le louant et en le glorifiant. Respecter le nom de Dieu signifie aussi ne pas blasphémer. Le blasphème est un péché très grave. Cela signifie aussi ne pas prendre Dieu inconsidérément à témoin, pour souligner la véracité de ce qu'on dit, par exemple du juré. Ça signifie aussi ne pas prendre Dieu à témoin dans un mensonge, par exemple le parjure. Qu'est-ce que c'est le parjure? Le parjure consiste à faire sous serment une promesse avec l'intention de ne pas la tenir ou de violer la promesse faite sous serment. C'est un péché grave contre Dieu, qui est toujours fidèle à ses promesses. Saint Ignace de Loyola nous rappelle qu'il ne faut jurer ni par le Créateur, ni par la créature, si ce n'est avec vérité, nécessité et révérence. Il ne faut pas oublier non plus que le nom de Dieu signifie Dieu lui-même, comme nous le disons dans le Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Ça signifie que toute la gloire, toute l'adoration soit rendue à Dieu seul. Le troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Dans l'Exode, chapitre 20, verset 11, nous lisons que Dieu a béni le jour du sabbat et déclaré saint. Pourquoi ? Parce que le septième jour de la création, Dieu s'est reposé. Donc, le septième jour, l'homme lui aussi doit se reposer. Tous les hommes, les serviteurs et les étrangers, et même les animaux domestiques, tels que les bêtes de trait et de somme. Le respect du sabbat est un commandement particulièrement cher aux Juifs. Il protège ce repos du sabbat par de nombreuses prescriptions. Mais Jésus le rappelle que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Pour les Juifs, le sabbat commémore aussi la libération d'Israël de l'esclavage de l'Égypte et de l'alliance établie par Dieu avec son peuple. Pour nous autres chrétiens, nous fêtons le dimanche comme premier jour de la semaine qui rappelle la première création. Ce n'est donc pas correct de parler de week-end y englobant le dimanche. Mais nous fêtons aussi le dimanche comme huitième jour, jour qui suit le sabbat. Il signifie la nouvelle création inaugurée par la résurrection du Christ. C'est pourquoi les anciens baptistères avaient souvent un plan octogonal. C'était le lieu où les catéchumènes reçurent le baptême, leur résurrection spirituelle. Le mot dimanche dérive du latin dies dominicus, ce qui veut dire le jour du Seigneur, car le dimanche est devenu le premier jour de tous les jours et de toutes les fêtes. C'est une commémoration de la Pâque du Seigneur qui porte à son achèvement le sabbat juif et annonce déjà le repos éternel de l'homme en Dieu. Comment faut-il sanctifier le dimanche? L'un des commandements de l'Église oblige les fidèles à participer à la célébration eucharistique le dimanche et les jours des grandes fêtes. Il faut s'abstenir de toute activité qui empêche de rendre le culte à Dieu. C'est-à-dire, il faut s'abstenir de tout gros travail manuel, sauf en cas d'urgence et en ce qui concerne les services de grande utilité sociale, par exemple les pompiers, les ambulances, la police. Évidemment, une mère de famille peut faire la cuisine, mais tout travail du remue-ménage est déjà contre-indiqué. C'est le jour où la famille devrait se retrouver, manger ensemble, passer les loisirs ensemble, se consacrer aux autres, mais aussi louer Dieu ensemble. C'est le jour où l'on devrait se consacrer à la réflexion, aux bonnes œuvres, s'accorder soi-même quelques heures de répit, faire des promenades dans la nature pour découvrir la beauté de la création et en remercier Dieu. C'est pourquoi l'Église lutte obstinément pour le respect du dimanche. Et c'est pourquoi elle est absolument hostile à toute tentative commerciale de saboter le dimanche et de le remplacer par un autre jour de la semaine, comme c'était déjà le cas dans les siècles précédents.